PFM 99.9 Radio Récré.
Radio Récré, c'est l'émission jeunesse de Radio PFM, une émission pour les enfants de 6 à 12 ans, avec des chroniques, des interviews, des reportages réalisés par des enfants pour les enfants. Vous y entendrez aussi un agenda pour sortir en famille, des histoires à écouter et une playlist musicale adaptée. Radio Récré sur PFM 99.9, le mercredi matin à 10h et le dimanche matin à 9h, et sur radiopfm.com. Salut, salut! Super contente de vous retrouver pour un nouvel épisode sur Radio Récré, l'émission jeunesse de PFM 999. Cette semaine, on commence par une super interview. Les élèves de CM2 de l'école Oscar Cléret d'Arras ont pu discuter avec l'auteur et illustrateur Gilles Rapaport, notamment autour de son livre « Grand-père ». C'est extrait du podcast littéraire « Oh là là, quelle histoire Oscar !» On écoute ça ?
Et maintenant, place à l'interview de Gilles Rapaport, auteur de l'album « Grand-père » qui parle de la Shoah. Nous avons eu de la chance d'interviewer l'auteur. Maintenant, place à l'interview menée par Félix, Kélia, Maxine, Karl et Garance.
Alors bonjour, nous sommes contents de vous rencontrer en visio et de vous interviewer car nous avons lu et travaillé sur un de vos livres, Grand-père. Nous allons d'abord vous poser quelques questions sur votre métier. Quel est votre métier principal ?
Alors mon métier principal c'est illustrateur, c'est-à-dire que je dessine toute la journée et je suis aussi auteur. C'est-à-dire que j'écris aussi. Là, par exemple, en ce moment, je suis surtout en train d'écrire. Et quand j'aurai fini d'écrire mon livre, enfin celui que je suis en train de faire, je le dessinerai. Mais mon métier principal, c'est vraiment illustrateur. Pendant des années, j'ai fait que dessiner tous les jours.
Pourquoi avez-vous décidé de faire ce métier ?
Eh bien, c'est pas très compliqué. J'ai toujours adoré dessiner. Enfin, quand j'étais à l'école, quand j'avais votre âge. Et même au collège, ensuite, je dessinais tout le temps, tout le temps. J'ai toujours aimé ça. Et quand j'ai eu 15 ans, j'ai rencontré des illustrateurs et je ne savais pas que c'était un métier. Et donc, j'ai appris que le métier d'illustrateur existait. Et à ce moment-là, j'ai décidé que je ferais ce métier.
Vous débutez l'album par le récit ou par les illustrations?
Ah, c'est une très bonne question. En général, d'abord, j'écris le texte. Et il m'est arrivé une seule fois de commencer un livre par les illustrations parce que je n'arrivais pas à écrire le texte. Et ce livre, c'était Champion. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu. Mais celui-ci, j'arrivais pas à l'écrire. J'avais une idée du livre, mais j'arrivais vraiment pas à trouver les mots. Donc j'ai commencé par les dessins, et après seulement j'ai fait les textes. Mais quand je dis que j'ai commencé par les dessins, j'ai pas fait toutes les illustrations. J'ai fait ce qu'on appelle des esquisses, c'est-à-dire que j'ai dessiné très rapidement des idées de dessins. Et quand j'ai construit mon livre avec mes idées de dessins, j'ai écrit mon texte. Alors que Grand-père, j'ai écrit le texte. Et seulement très très longtemps après, quand je l'ai proposé à un éditeur et qu'il l'a accepté, j'ai fait les dessins.
Est-ce que c'est bien une histoire vraie, grand-père?
Non, non, c'est pas une histoire vraie. C'est une histoire vraie et c'est pas une histoire vraie. C'est une histoire vraie parce que c'est l'histoire qui est arrivée à la plupart des déportés. Sauf que les déportés ne survivaient pas, ils mouraient tous à Auschwitz. Donc c'est une histoire où j'ai surtout voulu raconter tout ce que les déportés avaient vécu du moment où ils étaient pris jusqu'au moment où ils allaient à Auschwitz et comment ça se passait à Auschwitz. La seule partie qui est vraie dans cette histoire, c'est la partie qui concerne ma famille, c'est-à-dire tout ce qui se passe à Paris, avec mon père, avec son frère, avec mon grand-père et ma grand-mère, jusqu'à la guerre. Mais mon grand-père n'a jamais été à Auschwitz. Il n'a pas été pris par les Allemands pour être déporté. Il a été seulement prisonnier de guerre. Alors, je peux vous donner des scoops même. Grand-père, je l'ai écrit il y a 25 ans, voire un peu plus. Et donc, je pensais que mon grand-père avait été pris à Dunkerque. Et en fait, j'ai découvert cette année qu'il n'avait pas été pris à Dunkerque. Il avait été blessé pendant la guerre, pendant une bataille assez célèbre dans l'est de la France. Et c'est à l'hôpital militaire que les Allemands l'ont arrêté et fait prisonnier de guerre. Et donc, c'était pas à Dunkerque. Mais ça, je ne le savais pas quand j'ai écrit grand-père. Donc l'histoire de ma famille, c'est une histoire vraie, sauf que mon grand-père n'a pas été déporté et que ma grand-mère n'est pas morte à la fin de la guerre. Elle a survécu et mon grand-père aussi a survécu. Donc voilà, mais ce que je raconte, c'est ce que c'est la vie d'un déporté.
Nous voulions savoir pourquoi vous écrivez des livres tristes qui parlent souvent de la guerre et de la Shoah.
Alors, c'est normal que vous ayez cette impression parce que vous avez étudié grand-père et peut-être vu d'autres livres tristes que j'ai pu faire. Mais comme je disais tout à l'heure, j'ai fait une cinquantaine de livres. Et les livres, entre guillemets, tristes, c'est un dixième de ce que j'ai fait. Même pas. J'ai dû en faire cinq ou six. En réalité, je ne fais pas que ça. Je fais beaucoup de livres drôles. En tout cas, les enfants rient beaucoup souvent en les lisant. Mais je trouve très important de pouvoir faire des albums comme grand-père qui transmettent des histoires aux enfants, des histoires qui me paraissent importantes qu'ils connaissent ou qu'ils sachent. Donc la Shoah, pour moi, c'est important que vous sachiez qu'elle a existé et ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc c'est important pour moi de faire ce genre de livre, comme l'esclavage quand j'ai fait un homme, où c'est important pour moi qu'on comprenne bien ce qu'était l'esclavage. Mais je ne fais pas du tout que des livres tristes.
Maintenant, nous voudrions parler des illustrations. Nous
Oui.
voudrions savoir pourquoi vous ne mettez pas beaucoup de détails dans vos dessins.
Alors, la raison la plus simple, c'est que je ne sais pas le faire. Ça demande une certaine technique que je n'ai pas. La raison un peu plus sérieuse, c'est que quand je mets peu de détails, ça vous oblige à voir ce qui est essentiel dans l'image. C'est-à-dire que vous n'allez pas regarder à droite et à gauche en vous disant c'est bien dessiné, ah ben là on reconnaît bien la tasse qui est dessinée, ou bien le costume est bien dessiné. Non, ce qui compte pour moi, c'est que vous ressentiez une émotion en voyant le dessin. C'est-à-dire que vous vous rendiez compte qu'il se passe quelque chose, plutôt que vous soyez là en train de vous dire, ah, il y a plein de détails, ah, c'est bien dessiné. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que vous receviez, comment dire, qu'en voyant le dessin, ça vous fasse quelque chose. Mais quelque chose, ça vous rend triste, ça vous énerve, ça vous amuse, ou bien ça crée une émotion comme, je sais pas, une forme de tendresse pour le personnage ou pour ce que je raconte.
Quel thème préférez-vous dans vos livres?
Je ne sais pas s'il y a un thème que je préfère, parce que j'écris sur plein de sujets. En revanche, il y a des gens comme votre enseignante, ou comme Fanny Dauphin qui est à côté, des gens qui travaillent sur les livres et qui ont une vision un petit peu en hauteur sur ce que je fais. Et ce sont eux qui m'ont dit quel était le thème principal de mon travail. Parce que moi, je ne le connais pas. Et ces gens-là m'ont raconté qu'en fait, ce que je racontais, c'était des histoires de gens libres. Des histoires qui disent que le plus important dans l'existence, c'est de rester libre. Et je suis assez d'accord avec elles. Par exemple, grand-père. Il est prisonnier à Auschwitz, mais il va choisir de vivre. Et le choix de vivre et d'y arriver en plus, c'est le choix d'un homme libre. Dans Un homme, qui est un livre sur l'esclavage, l'esclave choisit de fuir trois fois, en sachant que la troisième fois, il sera tué, parce qu'il est plus important pour lui de mourir en étant libre que de vivre en étant esclave. Donc, quand je regarde mes livres, en général, je me rends compte que je parle tout le temps de l'importance absolument essentielle de rester libre en toutes circonstances. Et s'il y a un discours que je tiens souvent aux enfants en classe, c'est de les inciter à garder cette idée en tête de rester libre. Libre de penser comme ils veulent, libre d'aller où ils veulent, libre, c'est-à-dire qu'on ne leur impose pas les choses.
Merci pour cette interview. C'est un livre qui est un sujet difficile mais essentiel.
Merci les enfants. Retrouvez l'intégralité du podcast littéraire Oh là là, quelle histoire Oscar sur radiopfm.com. Tout de suite, la suite avec l'agenda des enfants. On commence avec un rendez-vous pour celles et ceux qui nous écoutent le mercredi. Ce samedi 23 mai, c'est la nuit des musées. À cette occasion, Cité Nature vous propose une expérience nocturne unique. Au programme, visite libre des expositions, animation pour toutes et tous avec des assos super sympas comme par exemple les groupes scientifiques d'Arras, expo photo relax max, observation du ciel étoilé. Rendez-vous à Cité Nature à Arras, samedi 23 mai de 20h à minuit. C'est gratuit. Youpi! Est-ce que tu connais la Brique ? C'est une asso à Arras qui aide les plus démunis. La semaine prochaine, la Brique fête ses 10 ans en organisant une super fête. Ça se passe le samedi 30 mai dans les locaux de France Terre d'Asile, au 14 rue des Coquelipas, à Arras. Au programme, de 10h à midi, démonstration de danse hip-hop avec croustillant. De 11h30 à 17h, concert. Avec la Batucada CAC 40 ou encore le groupe Ni Dieu Ni Maître Onum. Entre le concert, clownerie par Yo-Yo le clown et son acolyte, déambulation théâtrale par Pharos Impro. Il y aura aussi une fresque collaborative avec l'artiste plasticien Sébastien Leclerc. On va un peu plus loin avec un endroit qu'on aime beaucoup. Le Forum départemental des sciences de Villeneuve-d'Ascq. Parmi les différentes expos proposées, on peut citer Vaisseau Terre, une exposition originale qui aborde la planète bleue sous un prisme positif et poétique. C'est tout public dès 7 ans, à voir jusqu'au 30 août. Allez, on termine l'émission comme d'hab avec une histoire à écouter. Cette semaine, direction le Québec, au Canada, avec le 30e épisode de la série d'Arte Radio, Le Jour Où. Le jour où j'ai passé une nuit vraiment sauvage avec Agathe.
Tu écoutes Polisson sur Arte Radio.
En collaboration avec Radio-Canada Audio.
Le jour où.
Le jour où.
C'est pas juste.
Le jour où.
Le jour où.
Des histoires vraies de nos vies.
Allô, je m'appelle Agathe, j'ai 10 ans. Je vais vous raconter le jour où on a passé une nuit vraiment sauvage. On est parti au camping avec les deux classes de 4e année. C'était une nuit au camping avec mon école. En fait, c'est une montagne avec beaucoup de nature. On devait apporter des vêtements, une lampe torche, des maillots, des gourdes. On était beaucoup excités. Il y avait plein d'arbres, il y avait des chemins et plein d'autres personnes qui campaient aussi. Et on a monté les tentes puis on a placé nos affaires. C'était deux tentes sur chaque terrain avec 4 personnes dans la tente. Alors il y restait 8 par terrain. Après avoir monté les tentes, on a dîné. Après, on avait fait une marche de 15 à 20 km. J'ai pas aimé ça. C'était très long et très épuisant. À la fin, tout le monde était pressé de retourner aux tentes. Puis quand il retournait aux tentes, ben, il y avait beaucoup d'insectes. Et il faisait vraiment chaud. Il faisait 35 à peu près. Mais dans nos tentes, il faisait au moins 40. Alors on avait vraiment chaud. Après, vers le soir, plus vers 9h, on a commencé à allumer des feux puis on a fait crier des guimauves. Au Québec, on dit guimauve, mais en France, on dit chamallow. On est allé se mettre en pyjama, brosser les dents. Il était comme 11h. On a commencé à éteindre les feux. Après, on est allé relaxer et lire si on avait un livre dans la tente. Et là, c'est là que les ratons laveurs ont commencé à sortir. C'est gris avec une queue, avec des rayures. Ça a comme un peu un masque sur le visage, là. Des bébés, c'est à peu près à grandeur de chaton. Mais l'écran, c'est deux fois un chat à peu près. Ils venaient pour manger parce qu'il y avait de la nourriture un peu partout. Juliana, elle, s'est endormie avec notre amie Elisabeth. Mais Ophélie et moi, on n'a pas pu s'endormir. Et on a commencé à voir et à entendre plein de ratons laveurs. La tente bougeait, on entendait des bruits. Alors là, on a toutes pas mal commencé à s'inquiéter, surtout Félix.
Ah, il arrête de la voir, il est vraiment proche. Oh non, c'est quoi ce bruit, c'est quoi ce bruit?
On a dû essayer de tout nous rassurer. Chaque minute, on entendait quelqu'un crier. Un raton laveur, c'est capable d'ouvrir plein de choses. Mettons un frigidaire, des zips, des portes. C'est capable de voler des choses aussi, d'ouvrir des poubelles. Je suis déjà tombée face à face avec des ratons, puis c'était vraiment pas cool. Mignon, mais très agressif.
Chut, allez, les filles, on doit dormir.
Pensez aux filles.
Et pendant que nous on écoutait les bruits, on voit un ombre. Ah! On sait pas pourquoi, on sait pas c'est quoi. Mais là, je crois que c'est Ophélie, elle a commencé à crier. Juliana a commencé à crier. Là, on a vu un bébé raton laveur qui essaie de jouer avec le zip et qui essaie d'entrer. Et Ophélie, elle tapait des mains ou elle faisait des bruits, elle criait. Juliana aussi, là. Les adultes pensaient qu'il n'y avait rien, mais parce qu'on l'avait fait fuir. Là. Et là, on a réussi à s'endormir. On n'a pas passé une bonne nuit, mais le lendemain matin, on a vu vraiment des boîtes à linge dans les fossés. Il y avait plein de boîtes à linge décapitées. Il y avait des livres, des vêtements. Il y avait un adulte, un raton laveur avait déchiré sa tente. On avait vu des empreintes de raton laveur des bébés. C'était vraiment des petites empreintes qui étaient sur notre tente. C'est une preuve qu'il y en avait un. La journée après, étant donné que tout le monde était... Les adultes, surtout, étaient fatigués. Et on était censé refaire la marche, mais à l'envers. Mais là, étant donné qu'on était trop fatigués, tout le monde, là, on est allé à la plage à la place. C'est une bonne nouvelle. On voulait pas refaire le 15-20 km. L'année prochaine, ils vont plus en faire un petit camping. Ils nous l'ont dit, là. C'est trop fatigant. Mais je retiens que c'était une belle expérience et c'était quand même drôle.
On écoutait le jour où j'ai passé une nuit vraiment sauvage à retrouver sur Arte Radio. Radio Récré, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine sur BFM 99.9, le mercredi matin à 10h, le dimanche matin à 9h et sur radiobfm.com. A plus!